Une vie, une œuvre. Dominique Vivant de nom le mal connu. Une émission de Paul Chavas, avec la participation de Marianne Dupuis, Pierre Lelièvre, Chantal Orgogozo, Martine Reed, Pierre Rosenberg, Philippe Solers.
J'ai voué mon existence, sire. Tout ce qui dépendra de mes seules facultés vous appartiendra jusqu'à mon dernier soupir. Ce n'est donc pas de l'oisiveté que je sollicite, mais de ne plus porter le titre d'une place qui n'existe déjà plus et progressivement est arrivée à celle d'un premier commis. Votre Majesté voudra bien me permettre de lui faire observer qu'ayant à 16 ans exercé à la cour la place de gentilhomme, qu'ayant été employé dans des missions honorables en Russie et en Italie, si, pour mon plaisir, j'ai cultivé les arts avec quelque succès, si en accompagnant Votre Majesté, j'ai augmenté mes connaissances, je n'ai pas dû me promettre que ce serait pour arriver dans ma vieillesse à n'être considéré que comme un artiste ou devenir un chef de bureau. Dominique Vivant Denon.
Voilà en quels termes. Dominique Vivant Denon, baron d'Empire et directeur du Musée central des arts, s'adresse à Napoléon, à l'empereur. Et là, on entre d'emblée dans une période forte de sa vie, le musée du Louvre, alourdi de charges qui faisaient de Vivant Denon le ministre des arts de Napoléon. Le parcours, il est déjà esquissé par son héros, mais glissons encore quelques dates clés. Naissance à Chalon-sur-Saône, près de Gevrey-Chambertin, en 1747. Paris, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, il a alors 17 ans. 1771, gentilhomme d'ambassade. 1785, fin de ses activités de diplomatie. En 1788, il s'installe à Venise, d'où il sera expulsé 5 ans plus tard. Révolution à Paris. 1798, départ vers l'Égypte avec les troupes du général Bonaparte. Et l'année 1802 voit à la fois la publication du Voyage en Basse et Haute-Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte et sa nomination à la tête du Musée central des arts, qui est aujourd'hui le Musée du Louvre, ce qui entraîne maintes missions à travers l'Europe. Auparavant, Denon avait publié des relations de voyage en Sicile, à Malte, dans le royaume de Naples. On a oublié, et déjà à l'époque, une méchante pièce de jeunesse intitulée « Julie ou le bon père ». Mais demeure le fameux conte libertin « Point de lendemain ». Enfin, viennent les 10 dernières années que Vivant Denon consacrait à sa collection, bien sûr, et à la vie de société. Et Dominique Vivant Denon meurt à Paris, quai Voltaire, en 1825. Martine Reed.
C'était un bourguignon, donc il est né en 1747 à Chalon-sur-Saône. Il monte à Paris très jeune, jusque-là l'itinéraire n'a rien d'étonnant. Il est nommé à un moment donné directeur du cabinet des médailles et des pierres gravées de Madame de Pompadour, qui est alors décédée. Enfin, il gère cette collection. Il espère ensuite occuper différents postes, c'est-à-dire faire une carrière de diplomate. On le voit en 1772 en Russie, en 1774 à Stockholm, en 1775 en Suisse, où se passe la brève correspondance avec Voltaire et la dispute qui s'ensuit. En 1777, il est à Naples et se fera renvoyer pour avoir, ressemble-t-il, remis un rapport absolument dévastateur sur les faits et gestes de la cour de Naples. Et de retour en France, alors, il sera reçu à l'Académie comme graveur en 1787 et sera de 1788 à 1793 à Venise.
Il sera. Et ça, alors, il y va de son propre chef.
Il y va de son propre chef, c'est-à-dire qu'il semble bien qu'il n'y ait pas été officiellement délégué. Vous savez qu'il y a eu des questions d'espionnage aussi.
On en a beaucoup parlé.
On ne sait toujours pas, et la correspondance ne permet pas de le savoir, pour les raisons pour lesquelles, au juste, il est expulsé de Venise officiellement pour activité d'espionnage.
Philippe Solers.
Je crois qu'il est essentiel de comprendre que très tôt, dès l'âge de 22 ans, Denon est rentré dans l'intimité de Louis XV. On raconte à ce moment-là des anecdotes qui, à mon avis, n'ont pas grand intérêt parce qu'elles sont dissimulatrices. Il se serait placé sur le parcours du roi et puis il lui aurait demandé la permission de le contempler de plus près, etc. Vous savez, ce sont des choses, ce sont des légendes.
Oui, comme plus tard le verre d'orangeade alors, à Napoléon.
Voilà. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu étrange, il y a une anecdote pour le dissimuler. Aussi bien dans le cas de Louis XV que dans le cas de Napoléon. Car, voilà le fond du problème, c'est un homme du secret. Eh bien, à 22 ans, les jeunes gens doués, beaux parleurs, intelligents, capables de jouer un rôle diplomatique, entraient dans ce qu'on appelle le cabinet secret. Le cabinet secret du roi, c'est donc de l'intrigue diplomatique. Et par conséquent, Denon, là, va être protégé, envoyé en mission, très vite, à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire pas n'importe où, à un moment très précis de la diplomatie française, auprès de Catherine II. D'ailleurs, dans mon livre, j'insiste sur le fait qu'il a pu, il a dû y rencontrer Diderot, qui lui-même a servi, vous savez, de passeur pour l'espionnage français en Russie. On va le retrouver, comme par hasard après, à Naples, dans une fonction diplomatique. Mais vous savez ce que ça veut dire, diplomate. Ça veut dire aussi qu'on étudie les dessous des cartes. Lorsqu'il est à Naples et qu'il envoie des lettres extrêmement sévères sur la cour de Naples, c'est-à-dire sur la sœur de Marie-Antoinette, comme Marie-Antoinette est à la cour et qu'elle lit les dépêches diplomatiques, il va se faire saquer. Ce qui explique qu'ensuite, ayant pris sa retraite à Venise, où il est en position de couverture de professeur de dessin, mais en fréquentant quand même, on le voit, un certain nombre d'ambassades, et donc recevant probablement des nouvelles de France au moment de la Révolution, il est interrogé par l'Inquisition de Venise, et on voit très bien qu'il est expulsé, etc. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il rentre de nouveau, de façon secrète, à Paris, sous la terreur, alors qu'il aurait pu y passer, puisqu'il était sur la liste des émigrés, et que grâce à David, il a cette rencontre avec Robespierre si énigmatique une nuit, etc., etc., etc. Toute la vie de Denon est celle d'un agent du secret.
Été 1775, vivant Denon est à Genève, peut-être en mission auprès des cantons suisses. À Ferney, tout près de là, réside Voltaire.
À Genève, le 3 juillet 1775. Monsieur, j'ai un désir infini de vous rendre mon hommage. Vous pouvez être malade, et c'est ce que je crains. Je sens aussi que souvent il faut que vous vouliez l'être, et c'est ce que je ne veux pas dans ce moment-ci. Je suis gentilhomme ordinaire du roi, et vous savez mieux que personne qu'on ne nous refuse jamais la porte. Je réclame donc tout privilège pour faire ouvrir les battants. J'étais, l'année dernière, à Pétersbourg. J'habite ordinairement Paris, et je viens de parcourir les 13 cantons dont vous voyez que j'ai pris la franche liberté. Si avec cela vous pouvez trouver en moi quelque chose qui vous dédommage des instants que je vous demande, alors mon plaisir sera sans reproche et deviendra parfait. Et puisque j'ai trouvé un moyen d'être votre camarade, je me contenterai de vous assurer que vous n'en avez point qui vous soit plus parfaitement dévoué, monsieur, que votre très humble et très obéissant serviteur. Denon.
Ferney, le 3 juillet 1775. Monsieur mon respectable camarade, non seulement je peux être malade, mais je le suis, et depuis environ 81 ans. Mais mort ou vif, votre lettre me donne un extrême désir de profiter de vos bontés. Je ne dîne point, je soupe un peu, je vous attends donc à souper dans ma caverne. Ma nièce qui vous aurait fait les honneurs se porte aussi mal que moi. Venez avec beaucoup d'indulgence pour nous deux. Je vous attends avec tous les sentiments que vous m'inspirez. Votre très humble et très obéissant serviteur, Voltaire.
Denon est alors tout jeune. Voltaire a plus de 80 ans. Il est en fin de vie. Et au fond, Denon s'introduit dans l'intérieur de Voltaire dans l'espoir de pouvoir ramener, ce qui est quand même une idée des admirateurs de Voltaire, d'avoir de Voltaire quelque chose, une lettre, un portrait, et il fait circuler très rapidement une gravure, le déjeuner à Ferney. Mais il faut savoir qu'il n'est pas le seul à faire ça à l'époque. Je pense qu'il y a eu, si je me souviens bien, il y a un petit recueil de lettres à Voltaire, recueil intéressant qui montre à quel point Voltaire fascine ses contemporains. Chacun essaie de se faire recevoir à Ferney, et il va d'un exercice de plume plus ou moins rusé pour précisément susciter un instant l'attention du grand homme.
Quand on lit ces récits de voyage en Sicile, à Naples, et bien sûr après en Égypte, à quoi s'intéressait-il ?
On a, pour ce qui concerne le voyage en Sicile, on a découvert il y a quelque temps un petit carnet de voyage de l'abbé Buisson qui accompagnait Vivant Denon en Sicile. Donc il s'était rendu en Sicile en 1778, ceci pour situer l'événement. Il est encore très jeune, et l'abbé Buisson fait surtout état de la remarquable curiosité de celui qui est encore son élève, puisque l'abbé Buisson avait servi de précepteur à Vivant Denon quand il était encore à Chalon-sur-Saône.
L'abbé Buisson était bourguignon lui aussi, ou tout au moins venait de Bourgogne, où la famille de Vivant Denon avait un fameux clos qui a beaucoup servi dans la vie de Vivant Denon à rendre ses jours plus faciles. Le Gevrey Chambertin était très apprécié.
Oui,
et il s'en faisait envoyer même à Venise.
Il s'en faisait envoyer à Venise. Il semble avoir fait commerce aussi quelque temps de ce vin avant que la Révolution ne complique les affaires et ne mette ses biens sous séquestre, ce qui a aussi été avancé comme raison pour laquelle il avait décidé ou choisi de rentrer en France. Donc l'abbé Buisson, dans ses carnets, parle beaucoup de sa curiosité pour les arts, principalement. Il est évident que le voyage est ponctué d'anecdotes, des accidents du déplacement, mais ce que fait apparaître justement l'abbé Buisson, c'est de nouveau, au niveau du caractère, et au fond très jeune, une extraordinaire curiosité, dirait-on, tous azimuts, pour l'art tel qu'il se manifeste en Sicile de diverses manières. Et on voit précisément Denon très soucieux de rencontrer déjà des collectionneurs, que ce soit des collectionneurs de peinture, que d'objets anciens, que de statuaires antiques, etc.
D'ailleurs, à travers toute sa vie, il a collectionné pour lui.
Oui, je pense que c'est peut-être au fond, au bout du compte, l'image, en tout cas avec les quelques connaissances que j'ai, l'image qui semble dominante. Je le disais tout à l'heure, enfin, cette passion pour l'art et ce goût de la collection qu'il portera évidemment dans un deuxième temps au niveau de l'État, connexionnera pour l'État, ce qui apparaît bien évidemment aussi dans ses lettres, aussitôt qu'il est nommé directeur de ce qui est à ce moment-là le musée du Louvre, qu'il fera nommer musée Napoléon en 1803. Mais dès 1802, au fond, on lui permet de vivre la vie du grand collectionneur, mais au niveau de l'État. Et d'ailleurs, Denon était très conscient de cela, et il y a souvent, plusieurs fois dans la correspondance, cette expression du Louvre comme le monument des monuments. Je pense que c'est une très belle expression qui montre à quel point, pour lui, pouvoir rassembler les chefs-d'œuvre réquisitionnés aux quatre coins de l'Europe est d'abord un geste de grand collectionneur qui a l'immense jubilation de voir chez lui tous ces chefs-d'œuvre rassemblés.
Denon se présente déjà comme un collectionneur privé.
Pierre Lelièvre.
Il s'intéresse au pays qu'il visite. Au cours de son voyage en Calabre et en Sicile, il a déjà amorcé cette collection qui est extrêmement variée et qui comporte à la fois des objets typiques et caractéristiques de la vie des gens dans le pays qu'il visite, de la vie des paysans comme de la vie des hommes des villes, mais de nom et surtout un homme, un urbain. Et il est curieux de tous les modes d'existence, aussi bien des habitudes alimentaires des pays qu'il visite que des relations sociales entre les diverses couches de ce qui compose la société.
Donc on est assez étonné quand on considère ce personnage-là et puis qu'on le voit tout d'un coup partir avec les armées de Bonaparte pour la campagne d'Égypte. Il a quand même 51 ans à ce moment-là.
Oui, mais alors, un instant, parlons de sa santé. Sa santé est excellente. C'est un homme qui... disons, ou nous dirions aujourd'hui, qui a fait du sport. C'est un homme qui est habitué à toutes les conditions, même difficiles, d'un voyage dans un pays relativement peu civilisé, surtout...
il a connu l'inconfort au cours de ses voyages en Italie.
Oui, bien sûr.
Sicile, Malte, etc.
Et Denon est un homme qui est habitué à vivre à la dure, aussi bien que dans les raffinements d'une société très polissée. C'est cette disponibilité qui me paraît être un des traits caractéristiques de sa personnalité.
Dupuis, on parle beaucoup de Dominique Vivant Denon pour son rôle dans l'égyptologie, bien sûr, au musée qui est aujourd'hui le musée du Louvre. Mais il y a un personnage peut-être moins connu des non-initiés, c'est l'artiste.
En fait, si on connaît mal l'artiste, c'est que ce n'est pas un très grand artiste, mais c'est un artiste intéressant, plutôt amusant. Il commence sa carrière plutôt en voulant s'affirmer comme écrivain, mais en fait, c'est quelqu'un qui a toujours dessiné. C'est un peu un maniaque du portrait. Il faisait systématiquement les portraits de tous les gens qu'il rencontrait, et ça, tout au long de sa carrière. Il est reçu à l'Académie comme graveur. Et puis, en 1809, il fait les premiers essais de lithographie dans la, dans la presse des frères Senefelder à Munich. Donc il s'intéresse beaucoup aux techniques, en fait. Et les épreuves que conserve la Bibliothèque royale, enfin la Bibliothèque nationale maintenant, montrent qu'il essaie de faire des pastiches à la manière de Dürer, jouant même sur le monogramme de Dürer, Albrecht Dürer, qui est renversé et fait vivant de nom, VD. Il fait aussi peut-être des faux, qu'il fait d'après Rembrandt, qu'il essaie de vendre comme ça quand il est à Venise, comme des authentiques Rembrandt. Et tout ça à partir de sa propre collection qu'il a constituée. Et puis la lithographie, c'est sans doute ce qui va l'occuper le plus quand il est à la retraite, hein, de 1815 à sa mort, où là, il représente toutes les dames qui défilent chez lui, qui viennent voir sa collection, qui apprennent peut-être aussi la technique de la gravure auprès de lui. Donc voilà un petit peu l'échantillonnage de sa manière de procéder.
Aucun particulier ne possède à Paris une collection d'objets relatifs aux arts et aux antiquités aussi curieuse, aussi variée et aussi singulière que celle que renferme l'hôtel du baron de Nons. Je trouvais dans cette collection quelques objets qui échappent à toute classification. Un petit pied humain parfaitement conservé, ce qui peut-être faisait autrefois partie des charmes de quelque aimable Bérénice, de quelque belle Cléopâtre. 2000 ans au moins se sont écoulés depuis qu'il reposait sur le tapis d'un divan ou qu'il parcourait légèrement les bosquets d'orangers du delta. C'est le joli petit pied dont M. de Nons fait la description dans ses voyages, comme étant sans doute, d'après son élégance, le pied d'une jeune femme, d'une princesse, d'un être charmant dont la chaussure n'avait jamais altéré les formes et dont les formes étaient parfaites. Lady Morgan, 1816.
Tout ce qui, au fond, a trait à l'art l'intéresse immédiatement. Il le dit et le répète. Et je pense que, d'ailleurs, c'est sans doute ce qui émerge de manière la plus évidente quand on lit les lettres. C'est la passion pour l'art. Je pense que l'homme de lettres est, chez de Nons, quelque chose de plus fuyant, de plus fugace, quasiment d'accidentel, alors qu'en revanche, on a, c'est l'évidence, une immense passion pour l'art, manifestée de multiples manières, aussi et sans doute en premier parce que de Nons, comme graveur, n'a pas fait autre chose pendant de longues années que de contempler des chefs-d'œuvre.
Oui, dès qu'il n'avait pas une occupation officielle, voilà, il se consacrait au dessin et à la gravure.
Tout à fait. Il le dit au moment où au Louvre, donc rentré à Paris, chassé de Venise et rentré à Paris, il va demander au Louvre une place très particulière près d'une fenêtre de façon à pouvoir copier tel et tel chef-d'œuvre. Et il dit qu'effectivement, à l'époque, sous le coup de la séparation avec Isabella Teotocchi, sa consolation est bien évidemment de contempler les chefs-d'œuvre et de les copier.
Et sa participation à la campagne d'Égypte est aussi due à son art du dessin.
Oui, il y a des passages tout à fait extraordinaires où de Nons dit sa fascination d'une manière... je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est, au fond, un personnage qui ne compose pas. Il y a une sorte d'immédiateté de l'admiration face au chef-d'œuvre égyptien qui est tout à fait remarquable. Ce regard-là est effectivement un regard neuf sur l'art égyptien, puisqu'il ne place plus la Grèce en premier et l'idéal antique, mais bien constate que, manifestement, les qualités artistiques des Égyptiens et de l'art égyptien pharaonique est indéniable.
L'inventaire de 1807 dénombre 314 pièces, et en plus, il faut ajouter les priapés.
Oui, on connaît surtout les retirages faits à la fin du XIXe siècle et les épreuves d'époque ont dû être censurées. Je crois qu'à Venise, il les a faites à Venise en 93, juste avant de fuir. C'est aussi un genre très, très particulier qui monte un peu l'esprit toujours dilettante et un peu malicieux, très malicieux de Vivant de Nons.
Libertinage dans le dessin, puis dans un conte, c'est une des voies du XVIIIe siècle.
J'aimais éperdument la comtesse de... J'avais 20 ans et j'étais ingénue. Elle me trompa, je me fâchais. Elle me quitta. J'étais ingénue, je la regrettais. J'avais 20 ans, elle me pardonna. Et comme j'avais 20 ans, que j'étais ingénue, toujours trompée, mais plus quittée, je me croyais l'amant le mieux aimé, partant le plus heureux des hommes. Elle était amie de Madame de T., qui semblait avoir quelque projet sur ma personne, mais sans que sa dignité fût compromise. Comme on le verra, Madame de T. avait des principes de décence auxquels elle était scrupuleusement attachée. Un jour que j'allais attendre la comtesse dans sa loge, je m'entends appeler de la loge voisine. N'était-ce pas encore la décente Madame de T. ? Quoi, déjà, me dit-on ? « quel désœuvrement. Venez donc près de moi. J'étais loin de m'attendre à tout ce que cette rencontre allait avoir de romanesque et d'extraordinaire. On va vite avec l'imagination des femmes. Et dans ce moment, celle de Madame de T fut singulièrement inspirée. Dominique Vivant de Non, Point de lendemain.
Point de lendemain, donc, a pour première particularité d'avoir plusieurs versions. La première est de 1777, la seconde, toujours anonyme, de 1812. C'est celle que nous lisons aujourd'hui, c'est celle qui est le plus habituellement disponible. Le texte a connu aussi une version pornographique, sans nom d'auteur, intitulée « La nuit merveilleuse ». La différence entre les deux versions tient essentiellement dans le style, qui est encore plus efficace, dirait-on, plus vif, comme resserré. Le temps d'une nuit, une femme trompe tout à la fois son mari, son amant et le jeune homme qu'elle a emmené avec elle à la campagne. Point de lendemain est incontestablement un chef-d'œuvre d'un point de vue narratif et prend place dans une longue série de contes libertins. Tout y est prodigieusement simple, parfaitement monté, calculé pourtant. On voit alterner un extraordinaire naturel qui côtoie le comble de l'artificiel. C'est une machine parfaitement réglée. Le projet de séduction est mené à bien par une femme avec des moments et des lieux très précis. L'opéra, le jardin, le fameux cabinet. C'est aussi une leçon, et c'est peut-être la chose la plus extraordinaire, une leçon de nuit, dit joliment Philippe Solers, leçon d'une nuit, en réalité, qui est aussi une leçon de décence. Il n'y a pas à ce conte de morale, et on se souviendra qu'il se termine de cette manière, « Je cherchais bien la morale de toute cette aventure, et n'en trouvais point. »
Une leçon de nuit qui est en même temps l'abolissement du temps.
Qui est en même temps l'abolition du temps, le temps d'une nuit. Enfin, il y a cet aspect tout à fait magique donné par les lieux et soigneusement en quelque sorte rythmé par un exercice de séduction qui tient du très grand art, puisqu'il y a un tempo extrêmement précis, rapide, mais pensé avec une extraordinaire astuce de la part de la séductrice, la fameuse Madame de T.
Oui, et cette volonté de séduire fait que ce petit conte se place vraiment très bien dans la tradition libertine du XVIIIe siècle.
Le jeune homme est aussi, d'ailleurs, censé comprendre très très vite qu'il a été parfaitement berné.
Berné, mais heureux.
Parce que
il y a différentes étapes qui font que ce jeune homme assez vif, qui montre bien qu'il a 20 ans, découvre peu à peu, grâce à cette femme, il découvre l'alchimie du plaisir.
L'alchimie du plaisir, d'autant plus que Madame de T le renvoie à sa maîtresse, une certaine comtesse à laquelle il est fait allusion en début de conte. Donc tout se tient très bien, chacun retrouve sa place à la fin de cette nuit.
Je prie le lecteur de se souvenir que j'ai 20 ans. Cependant, la conversation changea d'objet, elle devint moins sérieuse. On osa même plaisanter sur les plaisirs de l'amour, l'analyser, en séparer le moral, le réduire au simple, et prouver que les faveurs n'étaient que du plaisir. Qu'il n'y avait d'engagement, philosophiquement parlant, que ceux que l'on contractait avec le public, en lui laissant pénétrer nos secrets et en commettant avec lui quelques indiscrétions. Quelle nuit délicieuse, dit-elle, nous venons de passer par l'attrait seul de ce plaisir, notre guide et notre excuse.
L'attribution de ce texte a été un problème d'histoire littéraire pendant tout le XIXe siècle et une partie du XXe siècle. Je pense que là, le débat est ouvert et à mon sens, il n'y a pas moyen de trancher.
Et la langue, elle ne vous aide pas ? Parce que c'est une langue magnifique.
C'est une langue magnifique et c'est précisément peut-être ce qui amène un certain doute. Puisque j'ai eu cette difficulté, au bout du compte, à retrouver Vivant de Non dans Point de lendemain en lisant sa correspondance. Les 300 lettres à Isabelle Atoto qui sont d'un ton très très différent. On a effectivement avancé l'idée d'un de Non libertin. Cette idée ne tient pas. Pas trop bien quand on lit la correspondance. On y voit quelqu'un qui, de nouveau, ne,
Oui, mais enfin, il pouvait ne pas être libertin dans ses rapports avec celle qu'il appelle Bettine.
Bien évidemment, et je pense que justement, il s'agit de ne pas confondre la littérature et la vie. C'est-à-dire qu'à mon sens, il y a beaucoup plus de cohérence entre même Julie et le bon père, les deux voyages et les 300 lettres à Isabella Toto. Qui, là, on a effectivement un ensemble stylistique qui se tient davantage que si on considère Point de lendemain.
Point de lettre de toi. Ô ciel, je suis perdu. Je suis au comble du malheur. Ah, mon ami, je ne connaissais pas toute l'étendue de ma misère. Elle est infinie, elle est insupportable. J'ai été 3 fois à la poste. On m'a pris pour un fol. On ne s'est pas trompé. Ma tête est perdue. 10 jours dans cet état, ô ciel, que vais-je devenir? Mon ami, je ne sais plus qu'implorer, car rien ne peut me secourir. Une de tes lettres, ou la mort.
Martin Reed, vous avez écrit la préface de ce que a édité l'édition du Promeneur, Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte. Vous avez surtout la grande chance, je pense, enfin grande chance pour nous, de mettre au jour ces 300 lettres qui sont en voie d'édition par Actes Sud, 300 lettres qui sont actuellement encore dans une bibliothèque en Italie.
C'est vrai que j'ai un petit peu la chance d'avoir pu lire ces 300 lettres qui, je pense, vont modifier sensiblement la perception que l'on a de Denon homme et homme de lettres, puisque immanquablement on y apprend un tas de choses neuves, non seulement sur la passion et l'immense affection qu'il a unie pendant à peu près 37 ans, si on se tient à la correspondance à Isabella Teotocchi, mais également sur ce qu'il a pu faire au jour le jour, tant qu'il était à Venise, et puis dans les années qui ont suivi son arrivée à Paris, la Révolution, et bien entendu, ensuite, ses occupations au Louvre.
Oui, puis on connaissait davantage l'homme public, l'homme qui avait été diplomate, qui avait été le premier directeur du Louvre. Sa vie publique donc.
Oui, sa vie publique, absolument. C'est une ouverture, je pense, tout à fait neuve et intéressante de ce point de vue sur la vie privée de Vivant Denon et sur le caractère très évident de fidélité et d'attachement à la personne d'Isabella Teotto, qui personne, c'est quelque chose que révèle la correspondance, qu'il avait donc eu l'intention d'épouser, puisque la correspondance signale que non seulement il avait l'intention de l'épouser, mais aussi de vivre à Venise, faisant commerce de ses gravures, faisant aussi commerce d'antiquités.
D'ailleurs, je crois qu'il donnait aussi des leçons de dessin ou de gravure.
Il a également, oui, absolument. Il s'occupait, il avait constitué un petit groupe d'élèves autour de lui pour enseigner le dessin.
On connaît sa journée, par exemple, par Madame Vigée-Lebrun.
Je brûlais de voir Venise. J'y arrivais la veille de l'ascension en 1792. Monsieur Denon, que j'avais connu à Paris, vint me voir aussitôt. Son esprit et ses grandes connaissances dans les arts faisaient de lui le plus aimable cicérone. Et je me réjouis beaucoup de cette heureuse rencontre. Il me conduisit sur le canal où se faisait le mariage du doge avec la mère. Le lendemain, Monsieur Denon me présenta à son amie, Madame Marigny, qui depuis a épousé le comte Albrizzi. Elle était aimable et spirituelle. Le soir même, elle me proposa de me mener au café, ce qui me surprit un peu ne connaissant pas l'usage du pays. Mais je le fus bien davantage quand elle me dit « Est-ce que vous n'avez point d'amis qui vous accompagnent ?» Je répondis que j'étais venu seul avec ma fille et ma gouvernante. « Eh bien, reprit-elle, il faut au moins que vous ayez l'air d'avoir quelqu'un. Je vais vous céder Monsieur Denon qui vous donnera le bras et moi je prendrai le bras d'une autre personne. On me croira brouillé avec lui et ce sera pour tout le temps que vous serez ici, car vous ne pouvez pas aller sans amis. » Élisabeth Vigée-Lebrun.
On peut d'abord rappeler qu'Isabelle Ateotto, qui appartient à une famille patricienne de Venise, Byron, qui la connaîtra plus tard, au début du XIXe siècle, dira d'elle qu'elle est la Madame de Staël vénitienne. Effectivement, il semble que c'est quelqu'un qui était remarquablement instruit et qui tenait salon et qui a donc très rapidement réuni autour d'elle une série d'artistes. Manifestement, tous ces artistes et intellectuels sous le charme de cette très jeune femme. Et là, 28 ans, au moment où Denon fait sa connaissance, Denon en a un peu plus d'une quarantaine. Les lettres montrent très vite l'extraordinaire attachement. Isabelle Ateotto, qui est mariée à ce moment-là, à un poète qui s'appelle Carlo Marin, et l'extraordinaire attachement, passion véritable qui unit les deux amants pendant les 5 années que Vivant Denon passe à Venise. Vivant Denon dira et répétera à cette femme à laquelle il écrit entre 1788 et 1825,
sa mort,
il lui dira jusqu'à la fin, même quand elle s'est remariée, qu'elle a eu un fils et que manifestement leurs chemins ont divergé, que l'époque vénitienne est la plus belle de sa vie.
Après ces 5 années passées à Venise, Vivant Denon est expulsé par le Conseil des 10.
De la barque, le 14 juillet 1793. J'ouvre les yeux et je me trouve dans la lagune. Je voudrais que ce fût en pleine mer, pour qu'il n'y eût pas un point dans la nature qui rappelât qu'elle existe, pour que ce vide ressemblât plus à l'isolement que j'éprouve. Je veux t'écrire. Je ne puis arrêter d'idées ni en former une tout entière. Avant-hier, tout. Aujourd'hui, rien. Ah, que dis-je, n'emportais-je pas ton amour? C'est lui qui fait circuler mon sang. Il s'arrêterait sans lui. Les cruels, je vois 3 furies qui tourmentent 2 amants, avec quelle froideur ils les déchirent. Mon ami, j'ai su par le baron qu'on m'accusait dans le club Pesaro d'avoir formé un club de jacobins chez toi. Voilà tout ce que nos ennemis ont inventé de plus ingénieux pour nous assassiner. Qu'ils sont heureux, si des méchants peuvent l'être, nous nous aimerons pour les tourmenter. Ah, mon ami, tu m'aimeras toujours, car je n'existe que depuis que je t'aime.
De retour à Paris, alors, il semble avoir certaines difficultés, malgré des appuis importants, à se refaire une place, et donc profite de la possibilité d'aller en Égypte. Il le dit très clairement dans sa correspondance. Il tient beaucoup à ça, parce que ce sera la possibilité de résoudre un certain nombre de problèmes, entre autres financiers.
C'est d'ailleurs très curieux, la façon qu'il a eue de vivre à Paris, au temps où Paris était tellement bouleversé par la Révolution. Il était protégé ou bien il s'adaptait?
Il était protégé par David. Les lettres sont un peu étonnantes parce qu'elles adoptent très vite, et on ne peut pas croire que ce soit seulement pour des raisons de censure, elles adoptent très vite un ton qui célèbre la République nouvelle.
À Paris, le 29 décembre 1793. On connaît bien vite ici les bons citoyens. Il n'y a que les fripons et les intrigants de tourmenter. Les autres vivent tranquilles et on leur rend justice. Je suis déjà plus connu et je connais plus de gens dans mon quartier depuis 15 jours que j'y suis que je n'en ai connu en 15 ans dans l'autre régime. et avec de bonnes façons, il n'y a sorte de secours que je n'en obtienne. J'ai déjà monté 3 gardes. Aubourg et moi, nous avons 2 des plus belles piques de la République. Si tu m'entendais dire « qui vive », je t'assure que tu ne serais point fâché d'avoir un ami aussi martial. Je fais, les nuits, au corps de garde, les portraits de tous mes camarades. Aussi sollicite-t-on pour monter les gardes avec moi.
Il semble pourtant mener ce que j'ai pu appeler la vie d'une sorte de neveu de Rameau, manifestement beaucoup plus talentueux, beaucoup plus inscrit aussi dans la société du temps. Il dira, et je pense que c'est une notion intéressante, il dira et redira souvent dans sa correspondance, à partir justement de son retour à Paris, qu'heureusement il est de naturel si gai, c'est son expression, que les sociétés, au fond, les tables et les maisons lui sont toujours ouvertes. Il le dira jusqu'à la fin, donc même après 1815, une fois que manifestement il est rentré dans l'ombre et qu'il montre ses collections aux visiteurs, il redira que ce qui au fond l'a mené toute sa vie et a permis peut-être de traverser vents et marées sans trop de difficultés, c'est ce naturel, et cette sympathie qu'il avait si manifestement pour tout et tout le monde.
À Venise, j'eus pour guide un de nos Français les plus aimables. Non sous le rapport de la figure, il est vrai, car M. Denon, même très jeune, a toujours été assez laid. Ce qui, dit-on, ne l'a pas empêché de plaire à un grand nombre de jolies femmes. Élisabeth figeait le bras.